Camille Lemonnier, L'homme qui tue les femmes, 1893, Mémoire de l'assassin. Que ceci soit ma suprême et mortuaire volonté, s'il est possible que celui qui si cruellement transgressait la loi, immuable symbole de l'omnipotente volonté des hommes, ose invoquer, par-delà les jours, cette part de lui que, dès l'instant du crime, il abrogea sous l'irrémissible et occulte ingérence d'une volonté à jamais maîtresse de ses destinées. Je lègue à la science, comme à la seule puissance humaine capable de m'absoudre, avec ma cervelle, arsenal des ruses funestes et des diaboliques machinations, l'être pervers et compliqué qui, pour moi-même, demeura un insondable problème. Mon nom, j'ai tout fait pour qu'il demeurât perdu dans l'obscure légende des réprouvés rentrés aux terrestres ténèbres, après avoir témoigné de la fatalité des races vouées à dîner véritables opprobres. Personne ne saura donc quel flanc misérable, alambic où fermentèrent les sucs d'une hérédité monstrueuse, porte à l'impur limon prédestiné dans lequel se moda ma farce. Personne davantage, la semence qui en mes natives pourritures fit germer et fructifier un sombre et machinal criminel. Le sang, depuis, comme une onde lustrale, corrosive et ineffaçable, l'a baptisé, ce nom, sous la rubrique d'un rouge effrayant anonymat. Quand j'entrais avec elle dans la chambre de la maison infâme, la charme immémorablement reflétée en mes yeux, avec le lit des accouplements sans amour, la bête, j'en atteste l'autre conscience en moi demeurée impollue, la bête, toujours soufflant dans l'homme, n'attisa que la superficielle et instinctive concupiscence que cette fille, heurtée sur un trottoir, suscitait en ma flânerie de passant. À peine dans le crépuscule vapeur l'avais-je vue. Oh, j'aurais pu dire qu'un charme de grâce et de beauté m'eût attiré sur ses pas. Et toutefois, un charme plus incompréhensible que la charnelle splendeur d'un beau corps me captiva aussitôt qu'elle se mit à marcher devant moi, onduleuse et souple, avec le balancement de sa ceinture. Rien d'autre. De cette rencontre qui pourtant changea le cours de ma vie, rien d'autre que l'impérieuse foi que nos destins étaient jusqu'à ma mort liés ne fixa dans ma mémoire le clou auquel immuablement, chez les postérités humaines, demeurent attachés les décisifs tableaux commémoratifs des choses irréparables. Et, tous deux enfermés dans les férines atmosphères de ces cloisons offertes aux rudes errants de la rue, elle se dévêtit avec la gauche et frileuse pudeur d'une vierge résignée au premier péché. Une âme captive. Je soupçonnais alors l'invincible attrait perçu au frôlement de ses hanches, battait de l'aile, douloureuse et fraîcheur encore, en ce corps de jeune prostituée. Je la pris à mes bras comme une neuve épouse que le sort m'eût départie, presque avec le regret de la souillure que mon contact allait lui infliger. Oui, le regret des impurs baisers bafouant sur sa chair vénale les dernières et pâlissantes roses de la chasteté. Et comment, après les râles et les mutuelles caresses, l'ayant senti, malgré sa froideur, palpiter sous ma poitrine, cette neige d'un pâle et à peine nubile printemps, m'envahit tout à coup la nette et irréfragable détermination de couper en ses racines la fleur de vie charmante et corrompue que j'avais nourrie de mon triste amour. J'allai à mes vêtements, pêle-mêle, avec les siens jetés sur une chaise, et j'en tirai le rasoir, que, sans m'en être rendu compte, j'avais, en sortant de chez moi, glissé dans la poche de mon habit. Aucune raison jamais ne put m'expliquer cet acte inconscient, mais commandé par les ténébreuses providences, au point que je n'aurais pu me pas prendre sur moi l'effrayant et ridicule outil dont je m'armais en cette minute inévitable. Je savais seulement que je l'avais tiré de sa gaine et coulé dans mon habit. Je ne savais pas autre chose. Et m'étant mis nu, alors sans doute se prémédita en moi le dessein final, je cachai derrière mon dos l'éclair de l'âme et, sans effroi, sans un soubresaut sous ma mamelle, d'un regard où nulle pitié ni hésitation de l'induisir en le soupçon d'un barbare forfait ibérité, j'embrassai ses jeunes et pâles seins, la maigreur de son ventre épargnée par la maternité, le flexible et gracile col pareil à une tige. Surtout, je regardais le col sinueux, sachant que rien au monde, à présent que sa mort était résolue, ne pouvait plus m'empêcher d'en déchirer d'un coup net et prompt les soyeux, les pâlement azurés et soyeux tissus. En un transport, nos corps se nouèrent plus étroitement que si de tardives fiançailles enfin consommaient la souffrance d'un désir toujours insatisfait. Et quand, aux chaleurs et aux frissons de sa gorge, je conjecturais qu'un même spasme allait joindre éperdument nos haleines, en cet instant précis, et avant qu'elle eût seulement soupçonné le geste qui éterniserait jusque dans les enfers et paradis sa volupté, je pressais sur le rasoir et d'une fois lui tranchais les carotides. Sur ses lèvres tôt violettes décloses aux immortelles délices, tandis que jaillissait en torrentielles gerbes vermeilles, le sang arrosait les aréoles de son sein et fluait entre nos ceintures confondues, je cueillis ensuite, avec le froid soupir où s'évagavant son être, le souffle encore ardent de la minute qui, de ses passives entrailles, peut-être pour la première fois, avait fait crier l'amour. Aucun remords sur l'heure, quand je vis s'égoutter par la profonde sentaille qui lui sépara la tête du tronc, la rouge fontaine de sa vie. Aucune agitation de mon cœur ni de mes sens n'accompagna l'instant qui suivit l'effroyable immolation. La certitude de l'acte s'imposait à moi, mais sans m'émouvoir ni soulever ma réprobation. Le supplice consommé, l'immortellement délicieux supplice où l'amour et la mort râlèrent leur indissoluble râle, j'épuisai les ablutions jusqu'à l'effacement complet du sang sur moi. Je me rhabillai et, après l'avoir considéré un long moment, toute vêtue de la pourpre issue de ses veines comme d'un tragique et somptueux manteau, ses membres déjà mollissants, écroulés en travers du rouge flot, toujours s'épanchant comme d'une inépuisable urne, je descendis l'escalier. Mais sur la dernière marche, je sentis que je ne pouvais la quitter ainsi. Je remontai précipitamment, je baisai longtemps ses yeux de pierrerie morte, ses yeux de volupté et d'agonie, ses yeux sommeillants sous le rideau des cils, ses yeux où, dans la surhumaine et céleste détresse, s'était lapidifié mon visage d'assassin. Et je lui disais, j'éprouvais la cruelle nécessité de lui dire, comme si elle n'avait pu comprendre encore. Vierge rédimée et par ce sang à jamais saintement expiée, Vierge qui chuse au limon d'or d'où mes mains, pour ton actuelle et libératrice assomption t'ont retirée, ô créature d'ignominie et de péché, sois ma sœur. Jusqu'à les vers sortis de ma pourriture, je garderai, fidèle à ton culte, l'arôme de ton âme délivrée, le subtil et consternant parfum du baiser par lequel tu payas ma scélératesse glorieuse. Ensuite, d'une circulaire estafilade de l'homicide acier, auquel inexplicable honte me rend pénible cet aveu, je scalpais avec les bords de la secrète bouche les lins crépelés, humides et raidis déjà du sang figé. Et je ne m'en allais qu'après avoir, oh pourquoi, pourquoi, insinué aux dents resserrées, comme par l'effort d'un étau, une banque-note de 100 francs. Les 100 francs qui m'attestèrent partout où je portais la mort, comme si, en déliant les âmes boiteuses des victimes assumées à mes coups, je rémunérais les rapaces survivantes pour la suprême pitié des funérailles. Alors je ne calculais pas l'étrange motif de cet obol du carnage. Ouvrier d'une œuvre maudite, j'obéissais à des impulsions irréfléchies et auxquelles quelqu'un en dehors de moi me stimulait. J'étais comme un corps dépouillé de ses moteurs et que galvanise l'incoercible ascendant d'une force s'exerçant de l'autre côté de sa vie. Plus tard seulement, quand je pus raisonner, je me persuadai qu'un pensée commisératif avait déterminé l'offrande, où le monde, en son effarement stupide, ne voulut voir qu'une dérisoire et plus excessif outrage. Tranquillement, je descendis, réglai entre les mains de la méretrice le prix du lit sanglant, et m'en allant, je me retournai même pas la tête pour regarder de loin la maison qui, dans un instant, se remplirait d'horribles clameurs et où, en sa grande paix impure, reposait la nudité de l'élu, de la toujours élue. Dans la rue, seulement, après une marche à travers les lasses multitudes opprimées par la douleur du quotidien labeur, et pensif, encore nostalgique, des regards expirés où j'avais bu sa mort, je perçus, mais vague, le sentiment de l'irrémédiable. Et cette perception n'était pas dénuée de quelque douceur. Il me semblait que ma vie marchait à présent devant moi, dans le pas de celui qui avait exigé le meurtre et dirigé mon bras, que je n'aurais plus à penser à ce que j'allais faire, mais que dorénavant j'exécuterais ce qu'il avait uniquement et souverainement décidé. Toutefois, ce sentiment fut-il aussi précis? N'y supplé-je pas en ces lignes par une sournoise dialectique? Bon, je ne saurais le dire. Je me souviens seulement que je rentrais chez moi, désintéressé de toute distraction, l'esprit calme et soumis comme à quelque irréfragable loi. La nuit, je n'eus ni cauchemar, ni songes expiatoires, mais une sensation d'horrible froid aux pieds soudain me réveilla vers l'aube. Et j'allumai une lampe, je regardai mes mains, j'allai ensuite me regarder dans la glace, cherchant dans mes propres yeux, ô étrange aberration, le regard qui avait laissé ses déclinantes prunelles. Le lendemain, et pendant 3 jours encore, je jouis d'une vie légère, heureuse, surnaturelle, comme après une noble ambition accomplie, la délivrance d'une obsession tantalisante, la joie d'une menace enfin conjurée, ou quelques certitudes longtemps remises et indubitablement élucentes. Cependant, au fond de cette extraordinaire et si bénigne disposition d'esprit, régnait, où ma paix intellectuelle s'en adjuvait délicieusement, un fond de douleur vaincue, la lyre restée d'une grande souffrance dissipée. Et je me souvins qu'un peu, ou très peu, de cette inexplicable douceur de tout mon être m'avait autrefois lénifié, après avoir descendu en terre un frère aimé jusqu'à la passion, et au chevet de qui j'avais senti s'enfoncer en moi toutes les épines du plus mortel calvaire. Ayant vidé mes larmes à le pleurer, ensuite je connus le déliment de la douleur en une quasi pareille convalescence de mon âme. Mais la quatrième nuit, je fus tourmenté par l'atroce évidence d'un flux de sang qui goutte à goutte s'instillait dans ma gorge. Je fais des efforts pour boire à mesure tout ce sang, mais il coulait si vite que ma bouche en était remplie sans qu'il me fût possible de le boire tout. Et à la fin, je me dressais en sursaut, sentant que j'étouffais. Alors il me sembla l'avoir à mes côtés, dans mes draps, avec la plaie vomissante qui lui labourait le col. Je cachais mes mains, je criais. Mais se peut-il qu'elle, dans ses mains, avait pénétré ce forfait abominable? Est-ce bien moi, passive et docile créature, qui ai versé ta vie de ses mains inhabiles aux moindres violences, de ces mains qu'aucun travail ouvrier jamais ne ductilisa aux manœuvres viriles? Grêle, d'aspect chétif et féminin, les œuvres de force dès l'enfance m'avaient répugné. Et seul, avec mes seuls doigts pour outils, j'avais consommé une pareille boucherie. Moi qui aimais l'innocence, la candeur, la faiblesse, oh, jusque dans mon fumier, cette bonté en cent occasions avérée, je le jure, j'avais sans cause supplicié l'irresponsable et novice enfant. Oui, l'innocence, la faiblesse et la candeur indéfailliblement, tu les adoras, mais qui en peut douter? C'est pourquoi, en ta pitié profonde et ton inexorable amour, tu mis à mort celle qui était faible, candide et malheureuse. Il en devait être ainsi. Il me parlait, l'invisible compagnon qui m'avait glissé l'arme au poing. Muet toujours, enfin, il me parlait, me justifiait, me commandait de m'enorgueillir de cette blessure par laquelle je me persuadais que je l'avais rachetée. Et je ne l'écoutais que trop bien. Bientôt, je fus ravagé par le tenace, l'incompressible besoin de la revoir, car je ne pouvais douter qu'en revoyant la chambre où je l'avais égorgée, je ne revisse à l'instant son image corporelle. Dans la horde des filles faméliques, tissant alentour leurs raies soucieux, je ramassai au hasard la première qui s'offrit et je demandai la chambre où quelqu'un, et ma voix articula cela nettement, avait tué cette femme. Sans doute on me prit pour quelque morbide original en mal de sensations intenses. La sinistre tenancière de ce mauvais lieu à peine me regarda, et m'eût-elle regardé, je savais qu'elle ne m'eût pas reconnu. Nous pûmes monter sans inquiétude, et tout en se dévêtant, la fille, oh, je ne vis même pas son visage, me confessa en riant que 20 autres avant moi avaient exigé qu'elle exerçât son métier dans la chambre, pourtant à jamais sanctifiée par le meurtre. Je la vis dégrafer son vêtement à travers le geste qui en ce moment pareillement faisait glisser l'étoffe et la toile. Je la vis ranger ses bas au pied du lit. Je la vis monter à sa croix funèbre. C'était le même lit, les mêmes draps peut-être, les draps où à bouillon avaient pleuré ses veines. Oui, ce devait être les draps d'amour et de mort où j'avais cueilli sur ses lèvres la fleur de ses amoureuses entrailles. Et en est-il pu être autrement? Mais quand celle qui était là m'appela de sa voix grelottante, alors je compris qu'elle vivait enchaînée en moi, immortellement en moi, et que seulement devant moi grimaçait une fétide et sacrilège pourriture. Et tout à coup, il me parut que chaque meuble de l'horrible chambre me regardait avec des yeux réels, les nocturnes yeux de volupté et d'effroi qu'elle avait eus en expirant fixés sur les miens. Oh, jamais plus, irrémédiablement plus! Ainsi en moi parlait ma douleur. Va, perverse illusion, empuse, méprisable reflet d'une inaltérable splendeur. Je payais le salaire convenu, et d'un pas, qui cette fois se dérobait sous moi et que je surveillais, je repassais devant le guichet qui, l'autre jour, m'avait vu m'en aller tranquille et comme indifférent. « À jamais plus !» me répétais-je en traversant des groupes qui, disséminés sur le trottoir, discutaient les circonstances du crime. Je ne prenais pas attention à leurs conjectures, et pourtant elles pénétraient en mes oreilles. Malgré moi, j'entendais leurs puérils et grossiers rebâchages, un même impératif vouloir, indépendant de nos mois subalternisés, me contraignait à lire, sans curiosité, les innombrables feuilles qui s'occupaient de l'assassin. Devant l'atterrante sottise d'un reportage imaginant les plus risibles complications, j'aurais eu le droit de m'enorgueillir d'un acte si simplement exécuté et qui déconcertait toutes les probabilités. On disait les gens de police sur les dents, le parquet aux abois, la multiplicité des pistes toujours davantage embrouillant les recherches. De ce côté encore, la torpeur d'une occulte prédestination me dérobant aux tracts les mieux ourdis, eût pu me donner quelque fierté. Mais que m'importaient les rumeurs de la rue? De quel intérêt m'aurait abusé ce qui se passait hors de moi, quand en moi-même les plus extraordinaires sentiments qu'ait éprouvé un homme se succédaient, se combattaient, m'emplissaient d'une plénitude de joie et d'horreur? C'était la jouissance éperdue de la porter en moi, ainsi qu'en une tombe scellée, de mes mains exterminées, mais d'autant plus résorbées en ma vie. C'était le surhumain orgueil que mon geste eût dénoué les terrestres attaches d'une créature et sans doute exécuté un sombre destin résolu ailleurs. C'était aussi, c'était la crainte et l'âpre douleur qui ne subsisterait d'elle qu'un fantôme à jamais insaisissable. Pendant près d'un an, je vécus, et qui donc, si ce n'est moi, eût consenti à vivre à ce prix, en des alternatives aiguës de deuil et d'amère volupté. Rien, toutefois, ne ressemblait en moi à ce que les hommes appellent les remords. Et comment, en effet, aurais-je pu les ressentir, puisque l'essence même du remords, la conscience du crime, manquait à les stimuler? Mais insensiblement, oh, quelles hésitations à mesure qu'approche, mais il faut tout dire, l'heure démentielle où je ne fus plus que le passif instrument de la plus inexorable destinée, dans mon âme se leva l'obsession. Aucune volonté humaine bientôt n'eût pu prévaloir sur le désir et le besoin de sa présence. Elle-même m'enjoignait de la rechercher à travers le monde. Et un soir, pareil à l'autre soir, l'acier exterminateur dans ma poche, je rôdais jusqu'à minuit par les rues. Puis dans un silence de ruelle perdue, sous les claires étoiles, l'illusion exécrable de son amour, tandis que par la gorge se vidait l'infâme prostituée, me restitua la chambre et les oreillers où m'avait souri la tête coupée. Et pour que l'évidence persistât jusqu'au bout, le scalp ensuite mutila cette chair vicieuse, et je lui mis entre les dents, comme à l'autre la pitoyable obole, le prix du plaisir dans la mort. L'homme qui tua cette Annette Eva du flot fut celui qui avait immolé la Julia. Toi, ma sœur, et mon épouse à moi, fiancée en nos primes noces sanglantes. L'obsession, un instant apaisée, revint à un mois de là, et l'homme qui avait égorgé Annette Eva et celle dont le nom ne doit plus être mêlé à ces squalides épaves des carrefours sans lanterne, tua l'anglaise Anna Paddy. Et encore cette Delphine Moqueur, et cette Rosa Chérie Courache, et les six autres, quand de torves venelles au cœur de la cité, par les minutieux insidieux, on trouve expirer dans leur sang À toute ma main opposa la marque qui éternellement faisait revivre pour moi la chambre et un funèbre à jamais funèbre amour. Je devins le mystérieux criminel qui déjoue les guets, le sombre passant des foules perdu en son crime, le prince des ténèbres redouté des hordes misérables cherchant pâture aux fanges des ruisseaux. Un prodigieux instinct de dissimulation jusqu'alors mal éveillé me donnait les agiles et redoutantes ailures, les plus souples mimes. Personne jamais ne s'avisa de soupçonner dans le petit quadrage éder, rassis et maladif, dont la ponctualité et les notoires bonnes mœurs m'avaient conquis l'estime du quartier, et presque riche, nanti de rente, honnêtement voué aux pratiques droites, je le dis sans ironie, bien que la plus cruelle ironie semblerait à peine justifier un pareil langage, non, personne ne soupçonna l'homme qui tue les femmes. Cet homme, c'est moi pourtant. À quelles troubles hérédités, à quel parc funeste, prenant toutes ces chevaux des ancestrales destinées pour en tisser mes jours, les torts et criminels fils qui m'engluèrent. À quelle fatalité, uniquement responsable enfin, dois-je le diabolique privilège d'une cervelle où le meurtre régna triomphal et assouvi? Dites-le, ô vous, chercheurs d'énigmes, rois des terrestres problèmes, à qui je délègue pour vos scalpels et vos sondes ma dépouille réprouvée. Au jugement du monde, je demeurerai l'assassin 11 fois assassin. Et cependant, mais qui jamais pourra comprendre ce criminel sophisme? Je n'en tuai qu'une, et en toutes celles-là uniquement. Ayant immolé celles qui m'étaient dévolues par un intransgressible décret, les autres ensuite succombèrent, puisque j'étais voué à revivre sa mort en chacune d'elles, qui, mourant, me la rendait vivante. Camille Lemonnier.